Midi 55 sur France Culture, je vous laisse en compagnie de Caroline Brouet pour la seconde partie de La Grande Table.
Merci à vous Antoine Marette. Puissance des images, c'est le titre du dossier du numéro 2 juin de la revue Esprit. J'y suis arrivée, bonjour Carole Desbarras.
Bonjour.
C'est vous qui avez coordonné ce dossier, vous êtes critique et enseignante de cinéma, vous avez dirigé les études à la FEMIS et c'est donc vous qui avez réuni un certain nombre de collaborateurs pour constituer un dossier dans cette revue Esprit. Ça n'est pas la première fois d'ailleurs que Esprit s'attaque à cette question des images. C'est loin d'être le premier dossier. Est-ce qu'il y a une raison particulière, Carole Desbarras, à faire ce dossier maintenant ?
Je crois. Je crois parce que c'est ce qui a guidé d'ailleurs l'organisation du dossier. C'est la constatation que nous vivons dans une société dans laquelle coexistent d'un côté des iconoclastes violents qui veulent supprimer les images, et de l'autre, des personnes qu'on peut appeler des iconodules, en tout cas des gens...
C'est comme ça qu'ils sont appelés dans le numéro.
Oui, mais j'essaie aussi de faire que ce soit ouvert à tous.
C'est bien.
Des personnes qui font des images sans arrêt, avec leur appareil portable, avec ce qu'on appelle les selfies, on y reviendra j'imagine. Et donc la coexistence de cette efflorescence d'images sans arrêt, ce flux sans arrêt d'images personnelles qui ont comme caractéristique qu'elles sont mises dans le même temps où elles sont faites sur Internet, c'est ça la nouveauté, et cette caractéristique aussi d'images qui sont condamnées ou d'images qui sont faites pour condamner d'autres images, donc ces deux exaspérations sont dans notre société en coexistence. Et ça nous a semblé une particularité intéressante.
Et il nous a semblé à nous, à la grande table, que cette tension nouvelle que vous venez de décrire, Carole Desbarras, intéresserait nécessairement la personne que nous avons invitée à dialoguer avec vous, qui est André Günther. Bonjour à vous.
Bonjour.
Historien et spécialiste des images, titulaire de la chaire d'histoire visuelle à l'École des hautes études en sciences sociales et rédacteur en chef d'études photographiques dont le dernier numéro vient tout juste de sortir. Et il se trouve que comme nous faisions une première partie sur les images, au cœur d'un travail artistique et réflexif avec nos deux invités, Johanna Adjitoma et Khalil Jorej, il se trouve qu'ils ont été intéressés à l'idée de rester autour de la grande table, qui est donc très grande aujourd'hui. Ils sont là, tous les deux, ils peuvent intervenir à tout moment. Voilà, Carole Desbarras, vous le savez maintenant. Donc, vous dites que c'est une tension entre deux moments, deux tendances, disons, des images face aux images aujourd'hui. Vous dites aussi dans votre éditorial, je ne sais pas comment appeler
oui,
ce que vous avez fait,
dire,
un
oui.
éditorial de ce numéro, que l'éventail s'est ouvert. Que voulez-vous dire ?
Ah, c'est une phrase qui m'a coûté beaucoup. Vous faites allusion à la phrase dans laquelle je dis que l'éventail s'est ouvert et que le cinéma n'est plus qu'une des possibilités de narration. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette phrase, parce que je suis une cinéphile convaincue. Et dire qu'actuellement, on peut avoir des récits forts, artistiques, autrement que dans le cinéma, c'est quelque chose que j'ai bien été obligée de constater. Je veux dire qu'il y a parfois, sur Internet, parfois, des moments en images et en son qui relèvent de l'art, qui peuvent relever de l'art en 6 secondes. Vous avez également... dans l'autre bout de l'éventail, des séries qui peuvent faire 60 heures, parce qu'effectivement, il y a 7-8 saisons qui s'accumulent, qui peuvent relever de l'art aussi, qui sont du récit aussi, et qui donc ouvrent une possibilité de représentation du visuel à côté de celle du cinéma.
Je me souviens qu'en septembre, d'ailleurs André Günther était déjà à cette même table, nous avons fait une émission sur le pouvoir des images après la mort du petit Eilan et la diffusion de cette photo un peu partout dans le monde. Vous étiez là, André Günther. Pourquoi avoir appelé ce numéro « Puissance des images » plutôt que « Pouvoir » Carole Desbarras.
Le pouvoir, ça s'exerce sur nous. La puissance, peut-être qu'on peut y résister. Mon éditorial s'appelle « Faire face ». Et il se termine par une adresse muette aux deux ministres de l'Éducation et de la Culture sur le fait que l'éducation artistique est peut-être quelque chose qui peut aider face à la violence des images ou bien à la croyance énorme que certains ont dans cette puissance des images. Par ailleurs, c'était évidemment une référence à Godard qui avait fait un film magnifique qui s'appelait « Puissance de la parole » puisqu'il me semble que les images s'accompagnent de paroles, à des moments différents. Peut-être pas au moment où on les perçoit, après, mais ou bien dans la causa mentale et dans la loque là dont parlait Ignace de Loyola, c'est-à-dire ce flux de paroles qu'il y a à l'intérieur de notre être, mais qu'il y a toujours, à un moment donné, la présence des mots. Donc, puissance des images, puissance de la parole, il me semblait qu'il fallait unir les deux.
André Günther.
Alors, vous voyez, c'est toujours assez compliqué, d'abord à France Culture, de parler d'images sans images.
Ça, on aime bien.
Je note au passage, on en reparlera peut-être, mais c'est toujours intéressant, puisque le dossier n'est pas illustré. Alors, Esprit est une revue qui...
Il y a quand même 5 photos. C'est la première fois dans la revue Esprit.
Voilà.
Il n'y a jamais eu de photos avant.
Effectivement.
J'en suis.
Qui ont échappé manifestement, André.
C'est chiche. Voilà. J'ai repris mes anciens numéros d'Esprit, notamment celui en 2003 sur la société des écrans et la télévision, qui est un peu plus épais. Hein. Voilà, c'était un numéro double.
Épais, oui.
donc c'est. Quand Esprit se penche sur les images, c'est souvent représentatif, c'est pas seulement intéressant. Hein, c'est quelque chose qui est une sorte de signature d'un moment. Donc, je suis persuadé d'ores et déjà que ce dossier, on va non seulement le lire et le regarder maintenant, mais on pourra le reprendre dans quelques années pour mesurer, hein, effectivement, un certain nombre d'états. Alors, il y a une chose quand même qui me frappe, pour rentrer tout de suite dans le... cœur du débat, c'est au fond, quand je compare avec les approches un peu plus anciennes, puisque c'est des dossiers qui datent déjà d'il y a quelques années, dans Esprit, alors on a des constantes hein, qui sont le danger des images. Il y a ici un certain nombre d'articles, ça s'appelle puissance des images, mais au fond on aurait pu appeler ça aussi l'image inquiète. Ou l'inquiétude des images. On sent bien que ce soit du côté de la censure, il y a un article de Daniel Cohn très intéressant sur l'image djihadiste. Voilà, on se comprend quand même comme pratique des images. Voilà, c'est quand même plutôt celle qui nous inquiète. Et de ce point de vue-là, hein, on voit une continuité significative, à mon avis, de la part d'Esprit. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à cette continuité, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui, effectivement, entre l'inquiétude d'il y a 10 ou 15 ans, les dangers des images, la censure, la pornographie, les images de violence, est-ce que rien n'a changé ou est-ce que aujourd'hui on a... Alors, vous parlez de nouveaux outils dans votre éditorial. Il y a l'article de Benoît Labourdette, l'excellent directeur festival du Forum des Images, qui produit un résumé des nouvelles pratiques sur Internet, YouTube, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu court. Et voilà, donc j'ai envie de vous interroger sur, en particulier, le mot que vous citez dans votre éditorial, mais qui n'est pas développé dans les articles de ce dossier, c'est-à-dire la question du selfie que vous venez de rappeler.
Carole Desbarras.
Ce qui a changé, c'est que les numéros, et pas forcément celui sur la télévision que vous avez là, mais les numéros de 2004 et de 1994, étaient quand même très centrés sur la technique, sur les changements que le numérique induisait dans les récits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si la technique évolue, et je pense qu'on a deux artistes avec nous qui pourront nous aider, ce n'est plus le problème majeur. Le problème majeur, me semble-t-il, c'est ce que la société est en train de faire de sa croyance dans les images. Or, les effets sont assez complexes. À la fois, ils sont dévastateurs quand on parle des images djihadistes, et en même temps, ils sont très bénéfiques ou intéressants du côté de l'image de soi. Alors, pourquoi ne pas en avoir parlé davantage? Vous avez raison et merci de me poser la question. En fait, c'est très technique. Un dossier, quand il n'est pas énorme, comme celui, je suis très jalouse, du numéro que vous aviez là, un dossier dans l'esprit, c'est 5 articles. J'ai extorqué 9 articles.
Oui, il y en a plus là.
Il y en a 9. Et donc, je me suis engagée à ce qu'il ne soit pas long, effectivement, etc. Parce qu'il me semblait que la situation était tellement complexe, parce qu'elle touchait à l'idéologie, qu'il fallait vraiment donner plusieurs angles. Et en particulier, il fallait donner la parole à des artistes. Il y a deux artistes qui parlent dans ce numéro, Arnaud Desplechin, un cinéaste, et Thomas Hirschhorn, qui est un artiste plasticien. Et du coup, c'est vrai que je me suis un peu reposée sur le fait que des livres ont paru sur les selfies récemment. Pardon, mais le vôtre.
Là, ça s'adresse à André Guibert.
Oui, tout à fait. Et qui permettait justement de voir un peu plus clair sur cette question-là. De même que Benoît Labourdette avait aussi fait un livre sur l'éducation numérique. Ce que je voulais, en revanche, c'est garder cette question de la mise en scène de soi qui est importante, puisqu'elle est la pratique en particulier des jeunes. Pas uniquement, mais en particulier des jeunes. La garder pour la fin du dossier, avec le dernier article dont vous avez parlé de Benoît Labourdette. Et j'ai voulu absolument, c'était délibéré, confier cet article à quelqu'un qui était bienveillant à l'égard des jeunes. C'est-à-dire, je ne voulais pas avoir un article qui critique une fois de plus les selfies en disant c'est du narcissisme, c'est l'individualisme, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui, petit un, se fonde sur des argumentaires aussi bien économiques que techniques, que dans la construction idéologique, et surtout qui parte du principe que on peut faire des choses intéressantes avec cette mise en scène de soi. Donc, c'est vrai que c'est la partie congrue, mais en revanche, c'est l'ouverture vers l'avenir. Et ça permet, j'espère, d'avoir l'idée qu'on peut faire des choses face à la violence des images.
André Günther.
Alors, je suis très très convaincu, hein, évidemment, vous imaginez bien par cette réponse, et en particulier l'idée que je trouve effectivement importante d'arriver à ménager une approche positive des images. C'était un peu ma question lorsque j'employais le terme d'inquiétude, et c'est vrai, et vous l'avez souligné, on est face aux images dans une situation culturelle particulière. J'ai envie de dire, pour caricaturer, tout se passe souvent comme si les images étaient au fond hors culture. Alors, les images, vous voyez, ce qu'on entend par image, et quand on dit ce mot, en fait, on renvoie effectivement à quelque chose de relativement précis, qui ne sont pas les grandes œuvres dans les musées, mais qui sont, voilà, cette espèce de magma, je crois que vous employez le terme, de ce flux d'images, hein, tout le monde utilise volontiers cette métaphore, et donc dans le flux, hein, on voit bien que il y a du trop, hein, c'est quelque chose qui nous submerge, hein, on a eu les inondations il y a pas longtemps, voilà, c'est quelque chose qui fait peur. Je pense que quand on pensait l'image de cette façon, nous indique que nous n'avons pas, c'est très curieux, puisqu'on se décrit volontiers comme une civilisation de l'image ou des images, mais en parlant de ce trop d'images, j'ai l'impression qu'on dit, voilà, les images n'ont pas encore été intégrées, elles ne sont toujours pas finalement reconnues comme des contenus culturels. Alors, c'est une caricature, hein. Parce que on n'emploierait pas cette expression à propos d'autres contenus, à propos du texte, à propos des discours qui eux aussi ont connu une inflation considérable.
La preuve en est, c'est que c'est pas encore à l'école. Hein. C'est une des revendications de Carole Desbarras.
Absolument.
C'est ça que vous voulez dire.
Voilà. Alors donc c'est vrai que là la question que soulève aussi Benoît Labourdette, qui est celle de l'éducation à l'image, ça me paraît le levier essentiel. Voilà la question que vous développez aussi par ailleurs dans un autre article, hein, sur les effets, hein, les effets des images. Si je peux dire juste un mot, moi c'est la partie qui m'a le plus intéressé dans ce dossier, avec en particulier aussi les réactions des artistes, Thomas Hirschhorn et Arnaud Desplechin. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils racontent, ce n'est pas seulement une analyse d'image, c'est leur réaction, leur perception, leur manière de jouer, d'utiliser les images. Par exemple, lorsque Thomas Hirschhorn décrit son travail sur le masquage, la pixelisation, et qui est donc, c'est très intéressant, ça veut dire que les images ne nous arrivent pas comme ça, toutes nues. elles sont éditorialisées. Elles font l'objet d'un travail qui peut les couper, les légender, les truquer, les masquer. Et donc, ce dont nous parle Hirschhorn, Desplechin, c'est d'usage des images. Et ça, je crois que c'est vraiment la nouvelle question que nous posent tous ces nouveaux usages.
Alors là, je vais vraiment me tourner avant vous, Carole Debarra, vers nos deux artistes, Khalis Joreij et Johanna Djitoma, pour réagir à ce que vient de dire André Günther. Vous auriez très bien pu aussi être dans ce numéro qui ne comporte que 9 articles, donc vous ne pouvez pas plus, mais il y en aura d'autres, puisque régulièrement Esprit s'intéresse à cette question et que le monde est tel que bon. Mais la mise en scène de soi, c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout. Réagir en revanche au flux des images, choisir vos images, les mettre en scène est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre travail. Comment réagissez-vous à ce que vous avez entendu jusqu'à présent, Johanna Djitoma?
La mise en scène de soi, c'est vrai que on le fait aussi d'une certaine façon, mais nous sommes assez sensibles à ce sujet parce que nous avons une adolescente qui a 16 ans et qui est très souvent accrochée à son téléphone. Il y a beaucoup de Snapchats et tout ça. On en parlait. Elle a envoyé. C'est très commun d'envoyer 40 000 Snapchats ou d'avoir envoyé autant d'images.
Donc oui, ça nous a perturbés.
Ça nous a perturbés au début, parce que nous, dans toute notre vie, on en fera peut-être pas autant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça raconte? Et au départ, on était peut-être un peu réactionnaire par rapport à ça. Et puis, petit à petit, on a compris que c'était une autre façon, justement, et de gérer les images, et de se gérer, et de gérer sa propre représentation. Et que c'était une sorte de nouveau mode de journal intime, d'une certaine façon, mais un journal où le secret était très différent de ce qu'il avait été à notre époque. Et la notion de secret et de partage a beaucoup évolué. Et nous sommes en train actuellement de préparer un film de fiction sur ce sujet, parce que j'ai eu la chance de retrouver des cahiers que j'avais écrits de 13 à 18 ans à une amie. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce que ma fille était en train de faire avec ses selfies, ses Snapchats, son téléphone et l'image. En général.
Question à l'artiste, réponse du parent. Mais les deux se mélangent.
En fait,
totalement. Bien sûr.
C'est une boutade. Parce que moi, j'étais une personne qui a beaucoup essayé de réfléchir sur mes propres pratiques en lisant études photographiques, en lisant Esprit, en lisant etc. Et j'étais un peu démuni, par exemple, face à un changement paradigmatique des usages de l'image entre notre fille et nous, les idées de transmission, le poids des images, le rapport aux mots, tout ça, il fallait que j'apprenne, et je suis en train d'apprendre.
Alors, Carole Debarra.
Oui, c'est vraiment important, parce que dans tout ce qu'a dit notre interlocuteur, je voudrais reprendre deux points. Évidemment que l'image est mal considérée dans nos sociétés. On est dans une société judéo-chrétienne, l'interdit de l'image est extrêmement fort. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Louis Schlegel, qui est un historien des religions, comme vous savez, de faire un point sur les iconoclasmes, parce que je voudrais que des générations plus jeunes lisent Esprit, et je me dis qu'ils ne sont peut-être pas totalement au fait de ces questions-là. Donc il a fait un article très clair sur le sujet. Et puis vous avez dit autre chose, André, vous avez dit que la question de la culture des images se posait. Là, c'est l'enseignante qui réagit. Moi, j'ai toujours pensé que les enfants avaient une grande culture de l'image. Le problème, pour nous, adultes, et c'est ce que vous venez de dire, les parents, artistes, c'est qu'elle n'est pas la même que la nôtre. Et que tout le travail qu'on a à faire en tant qu'adultes, c'est de s'ouvrir à leur culture, non pas pour la bénir, exactement, non pas pour dire qu'ils ont raison et qu'ils voient que des merveilles, mais pour comprendre ce qu'ils ont comme image dans la tête, pour éventuellement leur apporter d'autres images. Il y a dans le dossier un article sur la censure qui s'exerce, un peu, trop à mon avis, contre des films qui sont montrés dans l'éducation artistique en France et qui, justement, montrent bien à la fois que des gens réagissent, mais aussi, soyons positifs, qu'il y a, grâce au ministère de l'Éducation, de la Culture et au CNC, il y a la possibilité en France de voir des films au primaire, au collège, en lycée, des très beaux films, des films choisis, recherchés, qui sont aussi bien des films des Frères Lumière que Vajda, par exemple, d'Asiel Mansour, qui est un film qui a 3 ans. Donc c'est vrai qu'il faut considérer qu'ils ont vu beaucoup de choses et à partir de ça, on peut peut-être montrer, nous, ce que nous pensons important.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Une grande table très grande dans cette dernière partie autour de la puissance des images. Comment penser la puissance des images ? Aujourd'hui, notre invitée est Carole Desbarats, critique, enseignante de cinéma, ancienne directrice des études à la FEMIS. Carole Desbarats a coordonné le dossier Puissance des images du dernier numéro de la revue Esprit. Autour de la table, pour dialoguer avec Carole Desbarats, l'interroger à mes côtés, André Günther, qui est historien spécialiste des images, titulaire de la chaire d'histoire visuelle à l'école des hautes études en sciences sociales, et sont également autour de la table, parce qu'ils sont restés depuis la première partie, Johanna Adjitoma et Khalil Jorej, deux artistes, plasticiens, vidéastes, cinéastes, et parents, et qui réagissent avec tout ce qu'ils sont. Justement, Carole Desbarats, dans votre article dans la revue Esprit, vous écrivez, vous faites une phrase assez forte en disant « Que faire pour éviter qu'une adolescente puisse répondre à des policiers qui lui demandent si elle a vu des scènes de décapitation ? Ce n'est pas forcément ma tasse de thé. J'ai vu la vidéo du journaliste américain qui s'est fait égorger et je trouve que ça ressemblait à un dessin animé. » On est au cœur du sujet quand même, là, Carole Desbarats.
Oui, oui. Que faire ? Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est pour ça que je plaisantais à peine en disant que les deux dernières phrases de mon éditorial étaient directement adressées à Madame Najat Vallaud-Belkacem et à Madame Audrey Azoulay. C'est-à-dire l'idée que il faut...
Audrey, hein, fille d'André.
Audrey,
pardon, j'ai compris
non,
André.
J'ai mal prononcé, mais je sais que c'est Audrey. Oh, oui. J'ai eu le plaisir de l'avoir en face de moi dans des commissions au CNC. C'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, donc j'espère que... Voilà. L'important, c'est que tous les enfants dans le système scolaire, et d'une manière ou d'une autre, possibilité d'approcher des images autres que celles que le marché industriel leur impose. En fait, c'est ça l'objectif. Et la deuxième chose, c'est de les approcher de manière positive. Je fais partie d'une génération qui a cru malin il y a longtemps, et c'était pas malin, de décrypter les images avec les enfants.
Pourquoi
donc,
c'est pas bien ?
Bah c'est pas malin, parce que à l'époque, on était en train de critiquer la publicité que les enfants adoraient. Comment voulez-vous être crédible si vous allez face à un enfant contre son désir ? C'est pas une bonne méthode pédagogique. Offrez-lui d'autres objets de désir et il fera tout seul la différence. Offrez-lui des John Ford, des Jacques Demy et ça va l'aider. Mais pas une fois. C'est un travail qui demande effectivement d'être présent dans les classes. C'est pour ça que ma dernière ligne fait appel aux fondamentaux de l'éducation nationale française qui sont au départ lire, écrire, compter, et j'ai rajouté écouter, regarder. C'est-à-dire il faut apprendre à regarder, à écouter à travers des belles œuvres.
Mais vous dites que ça existe déjà, qu'on a des œuvres de cinéma diffusées dans
c'est
les
vrai.
Écoles primaires, les collèges, les lycées. Alors quoi de plus ? Ou qu'est-ce qui manque ? Carole Desbarats.
Que ça touche plus d'élèves, que l'on forme les profs. Je vais vous donner un exemple précis. École et cinéma, donc, qui est le dispositif qui chapeaute, enfin, pardon, les enfants de cinéma, qui est le dispositif qui chapeaute école et cinéma, touche 850 000 enfants en France. C'est beaucoup. Mais c'est rien par rapport à la masse du primaire. Donc, la question, pour moi, elle est la formation des enseignants. Mais ça, effectivement, c'était trop spécifique. Ça n'apparaît pas dans mon éditorial. C'est apparu dans un autre article que j'ai écrit il y a 4 ans dans la revue. C'est-à-dire faire que les enseignants aient à l'intérieur de leur temps de formation au moins une sensibilisation à ce que sont les images, au moins, à minima. Actuellement, dans les ESPE, qui sont les écoles supérieures destinées à former les professeurs des écoles, quand vous avez une vraie formation, elle atteint un maximum de 12 heures dans l'année. La plupart du temps, il y a 0 heure ou 3 heures. Comment voulez-vous que des enseignants que l'on essaie de former à énormément de disciplines et qui sont, comme vous le disiez André, sous le joug du texte, de l'écrit, comment voulez-vous les aider à bien parler, entendre, voir ce que des enfants font si vous ne leur donnez pas le moyen de se rendre compte que l'image, c'est intéressant et comme le dit Benoît Labourdette, c'est aussi un objet de plaisir, il faudrait le dire.
André Günther.
Je bois du petit lait. En vous écoutant, parce que voilà, vraiment, il faut dire, il faut répéter ces choses-là. Hein. Il faut dire que l'éducation aux formes artistiques à l'école a été disons, comment le dire gentiment ?
Négligées.
Voilà, disons-le comme ça. Il y a des termes un peu plus forts, mais quand on pense à ce qu'est une agrégation, un concours de CAPES, d'histoire ou de géographie, voilà, qui sont des matières effectivement similaires, c'est quand même les ratios de formation que Carole a rappelé relèvent de la plaisanterie. Mais il faut ajouter à ce problème un deuxième problème. Et on voit bien que là, on est au cœur de la question, parce que voilà, nous savons que nous sommes dans une forme de politique austéritaire, que les budgets de l'État diminuent, et on nous répond. Hein, quand on parle d'éducation à l'image, on nous dit, ben oui, mais voilà, ça coûte cher. Alors le deuxième problème, c'est ça. L'image, ça coûte cher. Il faut des dispositifs, il faut des ordinateurs, il faut des écrans, il faut des dispositifs de stockage. Le texte, pourquoi il s'est imposé à l'école d'une façon aussi massive ? C'est tout simplement parce que c'est un outil extrêmement pratique et peu cher. C'est l'outil de savoir, c'est l'outil de transmission de connaissances le plus abordable économiquement, et ça n'est pas un petit critère. Donc l'image, oui, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent et qui, si on voulait vraiment exploiter cette extraordinaire explosion des formats et des pratiques à laquelle nous assistons et à laquelle les enfants sont les premiers exposés, puisque eux, effectivement, ils en consomment tous les jours à travers Internet, à travers YouTube et à travers la télévision qui n'a pas disparu. Donc ils sont d'un côté face à une explosion des images, dont ils ne sont pas d'ailleurs effrayés. C'est en réalité l'inquiétude des images, c'est la nôtre. Ce qu'on a dit autour de cette table, c'est celle des parents. C'est très intéressant ici de dire, quand on parle des images d'aujourd'hui, tout de suite d'évoquer les enfants. Voilà, c'est à travers eux, c'est eux qui nous montrent le chemin. À travers eux que se joue quelque chose qui est notre inquiétude de parents.
Alors que dans le travail précisément de Johanna Djitoma et Rally Jorège, on voit bien que nous-mêmes adultes, parents ou pas parents, mais disons grands, avons encore du mal à lire les images. Et que nous-mêmes, nous sommes en constante formation pour arriver à regarder telle ou telle image. C'est aussi ça qui est le propre de votre travail. Johanna Djitoma, vous vouliez...
C'est important, justement, cette idée de déplacer le regard, de re-réfléchir les représentations continuellement qui nous sont données, et des autres, et de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment primordial dans ce qu'on fait. Moi, je voulais aussi dire, par rapport à cette question de l'éducation aux images, qu'il ne faut pas hésiter aussi à solliciter ceux qui les fabriquent, c'est-à-dire les cinéastes, les artistes, parce que nous sommes souvent sollicités et on va souvent dans les écoles, pas assez, mais ce serait bien de le faire encore plus, parce que c'est au moment des rencontres avec certaines personnes que nos vies peuvent changer aussi, notre perception des choses et on se rend compte qu'il y a non seulement des films qu'on peut voir, mais aussi des... Je suis d'accord qu'il ne faut pas totalement s'opposer aux images que des jeunes et des moins jeunes voient, mais il faut faire une autre proposition, une proposition alternative, comme l'histoire ou que les histoires. C'est toujours plus intéressant de proposer quelque chose d'alternatif plutôt que de réagir contre.
Carole Desbarras.
Oui, c'était vraiment le sens de mon intervention. Soyons constructifs, les enfants, ils seront beaucoup plus sensibles. Vous avez raison, les artistes répondent quand on leur demande de venir, mais honnêtement, les artistes répondent à Paris. Si vous êtes à Sarlat, si vous êtes à Chef-Bouton, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, un artiste, il travaille pendant qu'il ne produit pas, il prépare son film d'après ou son intervention d'après. Et c'est vrai que là reviennent des questions d'argent. Donc c'est très très problématique de ne compter que là-dessus. En même temps, c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'ai eu l'occasion de demander à des artistes, vous deux en particulier, quand j'étais à la FEMIS, vous êtes venus tout de suite. Et que ça, c'est vrai que l'écho est très positif. Mais il ne faut pas se reposer que là-dessus. C'est la raison pour laquelle moi j'insiste beaucoup sur la formation des enseignants. Il faut aider les enseignants qui sont des gens scrupuleux à se dire, si je travaille, je vais arriver à aider les enfants à voir un film parce que je vais le voir avec eux. Je vais le voir avec eux, je vais bénéficier de ce qu'eux vont voir et ils vont bénéficier de ce que je vais leur apporter. Mais pour ça, il faut juste qu'ils aient assez de formation pour ne pas être tétanisés.
Est-ce que vous iriez à André Günther, vous ?
Oui, je crois que, si vous voulez, j'ajouterai un élément. Je suis tout à fait d'accord avec Carole Desbarras que l'approche technologique ne suffit plus. Vous avez décrit tout à l'heure l'éclatement des formats, hein, donc les différentes formes techniques d'image. Mais je pense qu'il faut mettre en parallèle avec cet éclatement l'explosion des pratiques de l'image et bien comprendre que le meilleur apprentissage est celui-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'un gosse prend son smartphone et fait des photos avec, y compris quand il fait 50 selfies à la suite, il apprend quelque chose sur les images, sur leur diffusion, parce qu'ensuite ces images, elles vont être commentées par des amis, et donc soyez tranquille que effectivement, si votre fille s'est trompée, hein, a fait des erreurs d'édition, ce sont ses copines et ses copains qui vont le lui dire. Donc on a aujourd'hui des outils d'auto-apprentissage.
Et là, pour le coup, c'est peut-être plutôt eux qui ont des choses à nous apprendre à nous sur la pratique,
voilà,
des nouvelles pratiques.
Je rejoins tout à fait Carole sur l'idée qu'il faut qu'il y ait un échange aujourd'hui, une interaction, hein, parce que cet auto-apprentissage, il a lieu en réalité devant nos yeux. Hein. Parfois, il nous inquiète parce qu'on ne le comprend pas toujours, mais de toute façon, laisser faire des images aux enfants, c'est comme ça qu'ils apprendront le mieux.
Mais il me semble, pardon André, il me semble qu'on est parti sur une des deux voies qui était votre point de départ, Carole Desbarras, la voie iconodule, c'est ça?
Oui.
Ceux qui pratiquent beaucoup dont l'explosion du flux d'images,
le
data mining, etc.
Bon,
le big data et tout ça. Mais on a un peu laissé de côté l'autre versant, le versant de la violence. Comment faire face à la violence des images. Nous, on a déjà du mal à le faire, mais comment protéger aussi d'une certaine façon nos enfants, puisqu'on est, c'est là pour le coup, on est resté là-dessus. Du coup, dans l'éducation à l'image à l'école, Carole Desbarras, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi aussi à ce versant-là?
Ah oui, je peux vous dire que les instances qui s'occupent d'école et cinéma, collège au cinéma et lycée au cinéma s'intéressent beaucoup à cette question-là et se demandent comment on peut travailler avec les enfants et pour les enfants dans ce sens-là. Moi, je suis très frappée par un texte de Jacques Rivette, qui est un texte ancien, qui, pour les cinéphiles, est un texte qui compte, qui s'appelle « De l'abjection », et dans lequel il écrit ceci, c'est un texte qui date quand même des années 60. Hein. Il écrit, voilà, « On a pu voir ailleurs des documents plus atroces que ceux retenus par René, il parle de nuit et brouillard, mais à quoi l'homme ne peut-il s'habituer ? Or, on ne s'habitue pas à nuit et brouillard. C'est que le cinéaste juge ce qu'il montre et il est jugé par la façon dont il le montre. C'est vrai que à travailler des images qui ont une valeur artistique au sens large du terme, et ce n'est pas que le film, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut parler de violence. On peut faire que les enfants voient un traitement de violence très grave, différent de ce que Internet leur montre, de ce que la télé leur montre. Vous voyez, c'est toujours la même attitude, ne pas aller cracher sur la télé, mais leur dire, voilà, quand dans un film de Rossellini, il y a un personnage qui se bat contre un autre et qu'il a une main qui dérape, un geste maladroit, ce que Roland Barthes appelle le corps idiot, et qui met ses yeux, ses doigts dans les yeux, de manière non maîtrisée, quelque chose de la violence d'un être sur un autre passe à travers cette représentation. Parce que peut-être aussi on s'est arrêté dessus. Peut-être parce qu'aussi il faut ralentir le flux des images. C'est peut-être aussi ça la pédagogie, prendre le temps.
Vous vouliez qu'on attende les vocalises, cette exultate et jubilate de Mozart dans une version par Cecilia Bartoli, c'est votre choix musical?
Oui, tout à fait, parce que je me suis demandé quoi mettre en relation avec ce dossier aussi difficile des images, surtout comme disait André Guenther, à la radio sans images. Donc j'étais quand même dans tout le temps de préparation de ce dossier très frappée par le fait que les gens qui veulent supprimer des images sont également des gens qui veulent voiler des femmes, qui veulent faire que le plaisir des femmes et le corps des femmes soient mis sous le boisseau. Et je me suis demandé comment rendre sa part de la musique. Et je me suis dit qu'après tout, Mozart, prenant un exultate jubilate et travaillant sur des vocalises extrêmement, presque indécentes, de cette voix féminine, c'était une façon de donner une réponse.
Merci Carole Desbarras, merci d'être venue au micro de la Grande Table. Puissance des images, c'est donc le dossier du numéro Esprit du mois de juin. Merci à vous André Gunther d'être venu également au micro de la Grande Table. Étude photographique vient de paraître printemps 2016 et merci beaucoup à tous les deux, Johanna Agitoma et Khalil Jorejch, d'être restés avec nous pour cette deuxième partie. Ce souvenir de la lumière, je rappelle, c'est votre exposition présentée au Jeu de Paume jusqu'au 25 septembre. Le Jeu de Paume et Place de la Concorde à Paris. Merci à toute l'équipe de la Grande Table. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet. À la technique, Nicolas Delmas.